Chapitre 95. 7 ans et 5 mois après la chute d'Ilium. Le jour de la représentation, Arman avait affaire dans la vallée sèche. Une fois expédié son déjeuner, il enfila sa tenue de combat et sa thermopompe, préleva une arme énergétique dans l'arsenal d'Ardis et se librefaxa là-bas. L'excavation du dôme de stase post-humain se poursuivait de façon satisfaisante. Comme il passait entre les gigantesques excavatrices, se bouchant les oreilles alors qu'un frelon de transport décollait pour filer vers le nord, Arman pensa non sans étonnement que 8 ans et demi s'étaient écoulés depuis le jour où il avait débarqué ici en compagnie d'une toute jeune Ada, d'une Anna encore plus juvénile et d'un Daemon immature et bedonnant en quête d'indices susceptibles de les guider vers la juive errante, cette femme mystérieuse qu'il avait appris par la suite à appeler sa vie. En fait, une partie du dôme de stase bleue était enfouie sous le rocher où sa vie avait gribouillé des instructions censées les conduire dans son refuge du mont Erebus. Même en ce temps-là, elle savait qu'Arman était le seul humain à l'ancienne qui soit capable de déchiffrer ses griffonnages. Les opérations se déroulaient sous la direction de Raman et d'Alcinous. Tous deux faisaient de l'excellent travail. Arman passa en revue leur checklist pour s'assurer de la bonne répartition des équipements. Le plus gros des armes énergétiques irait à Hughstown et à Shom. Les thermopaux devaient partir pour Belinbad. Les rampeurs étaient promis à Ulan-Bat et au domaine de Loman. La nouvelle Ilium avait fait une offre alléchante pour les vieux modèles de fusils à fléchettes. Arman ne put s'empêcher de sourire. Encore une dizaine d'années, et Grecs et Troyens utiliseraient la même technologie que les humains à l'ancienne, y compris les nœuds fax. Un détachement de l'expédition de Delphes avait déjà découvert le nœud d'Olympie, la ville où se déroulaient les jeux dans l'Antiquité, et non le mont Olympe. Enfin, soupira-t-il intérieurement, l'essentiel était de conserver une certaine avance sur eux, et pas seulement sur le plan technologique. C'était l'heure de rentrer, mais Arman devait se rendre autre part avant de retrouver Ada. Il serra la main d'Alcinous et de Raman, puis se faxa. Il se trouvait au Golden Gate à Machu Picchu, là où il était revenu à la vie 7 ans et demi auparavant. Plutôt que d'atterrir sur le pont, il se faxa sur une crête située de l'autre côté de la vallée et dominant les ruines incas. Jamais il ne se lassait de contempler l'antique édifice, dont les globules verts étaient à peine visibles à cette distance, mais il n'était pas venu ici pour des raisons sentimentales. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Arman regarda les nuages qui filaient au-dessus de la vallée à partir de la cascade. L'espace de quelques minutes, le soleil baigna la brume de son éclat doré et les ruines de Machu Picchu, à moitié englouties, lui apparurent comme une chaussée prolongeant celle du pont. Partout où se portait son regard, la vie gagnait sa lutte anti-anthropique, triomphait du chaos et de la déperdition énergétique. L'herbe qui poussait sur les collines, la lointaine canopée perdue au sein de la brume, les condors planant sur les courants thermiques, les oriflammes de mousse sur les suspentes du pont, et même les taches de lichen couleur rouille tavelant les rochers à ses pieds. Comme pour le distraire de ses pensées de vie et de nature, un spationnef tout à fait artificiel traversa bruyamment le ciel du sud, au nord, son sillage s'effilochant au-dessus des Andes. Avant qu'Arman ait pu déterminer son type et son modèle, il se réduisit à un point lumineux disparaissant à l'horizon boréal, bien au-delà des ruines, laissant derrière lui l'écho d'un banc supersonique. Ce bâtiment était trop gros pour qu'il s'agisse d'un des frelons de transport partant de la vallée sèche. Arman se demanda s'il ne s'agissait pas de Daemon, de retour de l'une des expéditions qu'il organisait avec les Moravec, afin de suivre et d'enregistrer les déséquilibres quantiques de plus en plus négligeables entre Mars et la Terre.
« Nous avons notre propre vaisseau spatial désormais », songea-t-il.
Il sourit de l'orgueil qui lui avait dicté cette pensée. Sauf qu'elle lui faisait toujours chaud au cœur. Puis il se rappela que s'il possédait bien un vaisseau spatial, il ne savait toujours pas comment en construire un. Il espérait vivre assez longtemps pour voir se réaliser ce rêve. Cette idée lui remit en mémoire les cuves de rajeunissement des anneaux E et P qu'il n'avait pas encore localisées.
« Bonjour !» dit une voix familière derrière lui.
Arman leva son arme énergétique par pur réflexe, la rabaissant avant même d'avoir fini de se retourner.
« Bonjour, Prospero, » dit-il.
Le vieux mage émergea d'une niche creusée au sein de la roche.
« Tu t'es revêtu d'une tenue de combat, mon jeune ami. T'attendais-tu à me trouver armé ?»
Arman sourit. « Jamais je ne te trouverai désarmé. »
« Certes, si l'on compte l'esprit comme une arme. »
« L'esprit ou la duplicité ?» Le mage leva ses mains veinées comme pour concéder la défaite.
« Ariel m'a dit que tu souhaitais me voir. Est-ce à cause de la situation en Chine ?»«
Non, » fit Arman. « Nous réglerons cela en temps voulu. » « Je souhaitais te remettre en mémoire la représentation de ce soir. »«
Ah ! Le théâtre.
Tu avais oublié ?»« À moins que tu n'aies décidé de ne point venir. » Dans ce cas, tout le monde sera fort déçu, ta doublure acceptée, bien entendu.
Prospero sourit.
Tout s'est vers à apprendre, mon jeune Prométhée.
Tu nous as demandé d'en apprendre bien plus.
Prospero écarta les mains une nouvelle fois.
Dois-je donner le feu vert à ta doublure? Interrogea Arman. Cela ferait son bonheur.
Peut-être vais-je venir après tout, dit le mage. Mais pourquoi ne puis-je point être un simple spectateur?
Pour cette pièce, ta place est sur la scène. Quand nous monterons Henri IV, nous serons ravis de t'inviter à la première.
En vérité, j'ai toujours rêvé d'interpréter Sir John Falstaff.
L'écho du rire d'Arman résonna sur les falaises et les escarpements rocheux.
Donc, je peux annoncer à Ada que tu seras des nôtres et que tu nous rejoindras ensuite pour boire et converser en notre compagnie.
« J'attends avec impatience de converser avec vous, » déclara l'hologramme solide. « Mais je redoute le trac. »«
Dans ce cas, je te dis merde. »
Un salut de la tête et Arman se faxa. De retour à Ardis, il rangea son arme et sa tenue de combat, enfila un jean et une chemise, chaussa des sandales légères et sortit sur le pré nord où on procédait aux ultimes préparatifs avant les trois coups. Des hommes accrochaient des lampions au-dessus des bancs tout neufs, des tonnelles et des buffets. Quelques volontaires passaient une dernière couche de peinture sur les décors, et un autre testait les rideaux sans se lasser. Ada le vit et voulut le rejoindre en emmenant Sarah, leur fille de 2 ans, mais celle-ci était fatiguée et se montrait grincheuse. Aussi la prit-elle dans ses bras pour la conduire à son père. Arman les embrassa toutes les deux, accordant un second baiser à Ada. Elle se retourna vers la scène et les rangeait de bancs, chassa de son visage une longue mèche de cheveux noirs et dit
« La tempête. Penses-tu que nous sommes prêts ?»
Arman haussa les épaules, puis lui passa un bras autour de la taille.
C'était la suivante sur la liste.
« Votre étoile va vraiment descendre parmi nous ?»
demanda-t-elle en se collant contre lui. Sarah gémit et changea de position afin que sa joue reposât sur les épaules de ses deux parents.
« C'est ce qu'il affirme, » répondit Arman qui avait du mal à y croire.
« Il aurait pu au moins venir répéter avec les autres. »«
Eh bien, on ne peut pas tout avoir. »«
Ah bon ?»
fit Ada. Elle lui jeta le type de regard qui, 8 ans plus tôt, l'avait conduit à se dire que cette femme-là était dangereuse. Un sony passa au ras des arbres et des maisons, fonçant vers la rivière et la ville.
« J'espère que c'était un adulte crétin plutôt qu'un des garçons, » dit Ada.
À propos de garçon, où est passé le nôtre?
Je ne l'ai pas vu ce matin et j'aurais voulu lui dire bonjour.
Il est sous le porche, en train de se préparer à l'heure du conte.
Ah, l'heure du conte, dit Arman.
Il se dirigea vers la combe du pré sud où se tenait en général ce rendez-vous, mais Ada la grippa par le bras.
Arman?
Il se tourna vers elle.
Manmut est arrivé tout à l'heure. Il m'a dit que Moira viendrait peut-être assister à la pièce.
Il l'a pris par la main.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas?
Ada acquiesça.
Mais Prospero est là, et Moira aussi. Et tu m'as dit que tu avais invité Ariel, qui a certes refusé de jouer. Et si Caliban débarquait lui aussi?
Il n'a pas été invité,
rétorqua Arman. Elle lui étreignit la main pour lui montrer qu'elle ne plaisantait pas. Arman lui indiqua les sites où seraient postés des gardes armés de fusils énergétiques, de part et d'autre de la Seine, devant les entrées de la maison, à proximité des tonnelles et des buffets.
« Mais les enfants vont vouloir voir la pièce, » insista Ada, « sans parler de ceux qui seront venus de la ville.
Arman hocha la tête sans lui lâcher la main.
Caliban peut se têtu ici quand ça lui chante, mon amour. Il ne l'a encore jamais fait.
Elle acquiesça doucement, mais resta accrochée à lui. Arman l'embrassa.
Ça fait 5 semaines qu'Eliane apprend le texte de Caliban et maîtrise ses déplacements, ajouta-t-il. Sois sans crainte, cette île est pleine de rumeurs, de bruits, d'airs mélodieux qui charment sans nuire.
J'aimerais bien que ce soit toujours vrai.
Moi aussi, mon amour. Mais nous savons tous deux, et toi bien plus que moi, que tel n'est pas le cas. Et si nous allions voir John savourer l'heure du conte?
Orfudio était toujours aveugle, mais les parents savaient que jamais il n'irait heurter ni blesser qui que ce soit. Et c'était sans la moindre restriction que 8 ou 9 enfants parmi les plus téméraires d'Ardis escaladaient sa carapace pieds nus en quête d'un bon perchoir. La tradition voulait qu'il chevauche Orfu pour se rendre dans la combe. John, à qui ses 7 ans révolus conféraient le rang d'aîné, avait pris place sur le point le plus élevé. Le grand Moravec avançait avec solennité sur ses répulseurs silencieux, une solennité que gâchaient quelque peu les gloussements de ses cavaliers et les glapissements de son escorte, ralliant la combe depuis le perron, en passant devant le vieil orme et en s'insinuant entre les buissons qui poussaient parmi les maisons neuves. Arrivé au creux de cette combe magique, hors de vue des maisons et des parents, exception faite de ceux qui assistaient à l'heure du conte, les enfants se laissèrent choir dans l'herbe moelleuse pour s'y étendre ou s'y asseoir. Comme à son habitude, John se plaça le plus près possible d'Orfu. Apercevant son père, il lui adressa un signe de la main, mais ne daigna pas aller l'embrasser. Le conte passait avant tout le reste. Arman, toujours debout auprès d'Ada et tenant dans ses bras une Sarah qui ronflait doucement, les bras d'Ada étaient tout engourdis, aperçut Manmut debout près des buissons. Il lui adressa un signe de tête, mais le petit Moravec consacrait toute son attention à son vieil ami entouré d'enfants.
« Raconte-nous encore l'histoire de Gilgamesh !»
lança un gamin de 6 ans parmi les plus audacieux. Le gigantesque crabe fit bouger sa carapace de droite à gauche comme pour signifier une réponse négative.
« Cette histoire est finie pour le moment, » gronda Orfu. « Ce soir, nous en commençons une nouvelle. »
Les enfants poussèrent des cris de joie.
« Une histoire qui s'annonce fort longue, »
reprit Orfu, dont le grondement paraissait rassurant même à des oreilles d'adultes. Nouveau cri de joie enfantin. Deux garçons s'empoignèrent et roulèrent au fond de la combe.
« Écoutez bien, » dit Orfu.
Tendant habilement l'un de ses longs manipulateurs, il avait séparé en douceur les deux garnements pour les asseoir à quelque distance l'un de l'autre. Ils furent tout de suite captivés par la voix tonnante et mélodieuse du grand Moravec.
« Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée. Détestable colère qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros, tandis que de ces héros mêmes, elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel, pour l'achèvement du dessein de Zeus. Part du jour où une querelle tout d'abord divisa le fils d'Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille.
Remerciements de l'auteur. Je tiens à remercier Jean-Daniel Breck, qui m'a autorisé à reproduire certains détails du parcours de la promenade plantée et d'une partie de l'avenue Daumesnil. Le texte intégral de la description qu'il en fait se trouve dans son essai Green Tracks, figurant au sommaire du Time Out Book of Paris Walks, Penguin, 1999. J'adresse également mes remerciements au professeur Keith Knighton-Elser qui a attiré mon attention sur les propos de Proust portant sur Renoir, extrait du Côté de Guermantes. Enfin, je remercie Jane Catherine Simmons de m'avoir autorisé à reproduire son poème « Mort-né » qui figure pages 641 et 642 de ce livre. Remerciements du traducteur. Je tiens tout d'abord à adresser mes plus vifs remerciements à Peter Robert, qui a entamé en même temps que moi, ou presque, la traduction de ce livre en langue allemande. Nous avons pu échanger les résultats de nos recherches respectives et nous protéger mutuellement de quantités de sirènes à la mélodie trompeuse. J'ai apprécié ses connaissances, sa disponibilité et son humour dans cette odyssée de la traduction dont nous ne sommes sortis indemnes ni l'un ni l'autre. Ma reconnaissance va également aux auteurs des ouvrages de référence que j'ai été amené à consulter. Comme l'espace dont je dispose n'est pas infini, j'ai profité des ressources de la médiathèque Audisud à Blagnac et de celle de la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse, dont je recommande la visite aux amateurs d'incunables et d'architecture. Comme le lecteur aura pu le constater, Dan Simmons renvoie à de multiples reprises à certains chefs-d'œuvre des lettres classiques. J'ai une nouvelle fois fait appel à diverses traductions de l'Iliade, notamment celle de Paul Mazon, livre de poche 1965, déjà bien exploitée dans Ilium, et j'ai aussi repêché dans mes souvenirs de collège la traduction de l'Odyssée due à Victor Bérard, livre de poche 1963. C'est seulement lorsque j'ai vu poindre à l'horizon ma destination tant espérée que j'ai pu me procurer la guerre de Troie ou la fin de l'Iliade par Quintus de Smyrne, dans une traduction de R. Tourlet, publiée en 1928, à Paris, en la rue de Beaune, à l'enseigne du Pot Cassé, si bien que j'ai par force moins sollicité cette source. Pour ce qui concerne la poésie anglaise, l'édition de La Tempête de Shakespeare dans la traduction de Pierre Léris, Garnier Flammarion, 1991, m'a été fort précieuse. Je tiens à signaler au lecteur l'anthologie bilingue de la poésie anglaise, parue en octobre 2005 à la bibliothèque de la Pléiade, où l'on trouvera notamment une traduction de Caliban upon Setebos de Robert Browning, que je regrette de n'avoir point connu plus tôt. Enfin, j'adresse un salut amical aux internautes fréquentant le forum du site de Dan Simmons. Leurs échanges, parfois vigoureux, sur la prose simonsienne ont enrichi mon point de vue. Jean-Daniel Breck, janvier 2006. Vous venez d'écouter Olympos, de Dan Simmons, traduit de l'américain par Jean-Daniel Breck, lu par Mathieu Dahan, une production Audible Studio.